Bonjour à tous, Yacouba Ouédraogo avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire en cette matinée du jeudi 13 février. Nouvelle avancée du M23 dans l'est de la RDC. Le Burundi qui a déployé des soldats en appui à l'armée congolaise met en garde le Rwanda. Sur le plan social, les évêques de l'église catholique et protestante ont rencontré les dirigeants de la rébellion à Goma dans le cadre de leur pacte social pour la paix.
Tel que nous avons écouté les uns les autres jusque-là, il y a cette double nécessité de régler certaines choses en interne.
Interview à suivre dans la partie magazine de cette édition. Des anomalies ont été décelées dans la gestion des finances publiques au Sénégal entre 2019 et 2024, révélation faite par la Cour des comptes dans un rapport. Au Libéria, le président Joseph Boakai a suspendu plus de 450 fonctionnaires qui n'ont pas déclaré leur patrimoine à temps. Le président Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine ont convenu de lancer des négociations immédiates pour mettre fin au conflit en Ukraine. Et puis en sport, fin hier des matchs aller des barrages en Ligue des Champions, Bruges domine l'Atalanta Bergame du Ballon d'Or africain. Les détails dans une dizaine de minutes juste après l'économie, mais d'abord le journal. Le groupe armé M23 et les forces rwandaises ont effectué mercredi une nouvelle avancée dans l'est de la RDC. Le Burundi, qui a déployé des soldats en appui à l'armée congolaise, a menacé Kigali de répondre en cas d'attaque. Plus de détails avec Mouamadou Mfa.
Le M23 s'est emparé de deux localités situées sur la principale route menant à Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu, selon des sources locales et humanitaires. Distantes d'une soixantaine de kilomètres, les localités de Iouzi et Kaléé, où le front s'était stabilisé ces derniers jours, ont été investies par les troupes du M23 et des soldats rwandais qui continuent de progresser sur la route nationale numéro 2, longeant le lac Kivu, selon ces sources. Le Burundi, frontalier de la RDC et du Rwanda, a déployé environ 10 000 militaires dans le sud Kivu. Ces troupes ont été impliquées ces derniers jours dans des combats contre le M23 dans les plateaux surplombant le lac Kivu, selon des sources sécuritaires. Celui qui va nous attaquer, nous allons l'attaquer, a déclaré le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, devant des habitants de Bugabira, une commune frontalière du Rwanda qu'il a aussi qualifié de mauvais voisin dans un discours diffusé mercredi par des médias locaux. Monsieur Ndayishimiye avait dit redouter début février que le conflit en RDC ne déclenche une guerre régionale.
Des anomalies et des manquements ont été décelés dans la gestion des finances publiques sénégalaises entre 2019 et 2024 sous l'ex-président Macky Sall, a relevé mercredi la Cour des comptes sénégalaise dans un rapport devant déterminer les rapports futurs entre Dakar et des partenaires, dont le FMI. Le point avec Rosine Mounessero.
Ce document est publié après que le régime du président Sall a été accusé fin septembre par le premier ministre Ousmane Sonko d'avoir falsifié les chiffres des finances publiques, notamment auprès des partenaires internationaux, par exemple sur la dette et le déficit budgétaire. L'encours total de la dette de l'administration centrale budgétaire s'élève à 18 558,91 milliards de francs CFA au 31 décembre 2023 et représente 99,67% du PIB, un taux supérieur au montant annoncé par le précédent régime, indique le rapport sur la période allant de 2019 au 31 mars 2024. Le chiffre recalculé par la Cour pour l'année 2023 est par exemple de 12,3% contre 4,9% annoncé. La Cour pointe aussi une dette bancaire importante contractée hors circuit budgétaire et non retracée dans les comptes de l'État et des tirages sur ressources extérieures supérieurs à ceux affichés par l'ex-gouvernement. Un porte-parole du FMI avait confirmé début novembre que le fonds avait suspendu son programme d'aide actuel en attendant que la Cour des comptes sénégalaise valide le rapport d'audit dont le gouvernement a présenté les conclusions fin septembre.
Le président du Libéria, Joseph Boakai, a suspendu plus de 450 fonctionnaires qui n'ont pas déclaré leur patrimoine à temps. La ministre déléguée au budget ainsi que des ambassadeurs épinglés par l'agence anticorruption du Libéria figurent parmi les sanctionnés. Le point avec Eddy Sango.
La ministre déléguée au budget ainsi que des ambassadeurs épinglés ont été suspendus pour une période d'un mois sans salaire jusqu'à ce qu'ils remettent leur déclaration selon la présidence. La loi libérienne oblige tous les fonctionnaires nommés par le gouvernement à déclarer leur patrimoine à leur prise de fonction puis au moment de quitter leur poste. Élu en novembre 2023, le président Boakai s'était engagé à lutter contre la corruption réputée endémique dans le pays. Avec ses 5 millions d'habitants, le Libéria est en quête de stabilité après des années de guerre civile et une épidémie d'Ebola en 2014. Le pays occupe, selon l'ONG Transparency International, la 135e place sur 180 pays dans l'indice des perceptions de la corruption. La semaine dernière, la présidente de la Société pétrolière nationale du Libéria, Nokal, Rostaline Swakoko Denise, a été suspendue par M. Boakai pour soupçon de corruption. Une enquête a été ouverte.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un juge américain a rétabli hier le plan du gouvernement de Donald Trump incitant les fonctionnaires fédéraux à démissionner. Le président américain avait proposé plus de 2 millions de fonctionnaires de poser leur démission avant le 6 février en conservant leur salaire jusqu'à fin septembre. Un projet critiqué visant à tailler dans les dépenses publiques. Un juge du Massachusetts avait suspendu ce plan juste avant la date limite. Mercredi, ce même juge a levé cette suspension temporaire et débouté les syndicats de fonctionnaires qui avaient déposé un recours en justice, estimant qu'ils n'avaient pas qualité à agir. Dans un décret, le président Donald Trump a rappelé que tous les fonctionnaires ou employés chargés de mettre en œuvre la politique étrangère des États-Unis doivent le faire sous la direction et l'autorité du président. Le fait de ne pas appliquer fidèlement la politique du président est un motif de discipline professionnelle pouvant aller jusqu'à la séparation, ajoute-t-il dans ce décret intitulé « Une seule voie pour les relations extérieures de l'Amérique ». Le décret vise aussi bien les diplomates de carrière que les milliers de civils du département d'État qui comptent 80 000 employés à travers le monde. Le président Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine ont convenu de lancer des négociations immédiates pour mettre fin au conflit en Ukraine lors d'un échange hier. Jacques Aristide.
Sur son réseau Truth Social, Donald Trump écrit avoir eu une conversation prolongée très productive avec Vladimir Poutine. Moscou et Washington vont commencer immédiatement à négocier sur l'Ukraine, ajoute le président américain. Nous voulons mettre fin aux millions de morts liés à la guerre Russie-Ukraine. Le président Poutine a même utilisé mon très percutant slogan de campagne, bon sens. Nous y croyons tous deux très fort. Se félicite le président Trump en rapportant ce premier échange avec le président Poutine depuis son retour au pouvoir le 20 janvier. De son côté, Vladimir Poutine a dit à Donald Trump vouloir trouver une solution de long terme au conflit ukrainien via des pourparlers de paix après 3 années de guerre, indique le Kremlin. Les deux dirigeants ont également convenu de se rendre en visite dans leurs pays respectifs, selon le président américain, qui a également eu un échange téléphonique hier avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. La conversation s'est très bien passée. Lui, comme le président Poutine, veut faire la paix, déclare le président Trump. Nous avons longuement parlé des possibilités de parvenir à la paix, indique pour sa part le président Zelensky, précisant que le président Trump a partagé avec lui les détails de sa conversation avec Poutine.
Le premier ministre indien Narendra Modi est attendu ce jeudi à la Maison-Blanche dans l'espoir d'échapper aux attaques commerciales du président américain. Dans un message sur X le 20 janvier, le jour de l'investiture de Donald Trump, Narendra Modi s'était dit impatient de travailler de nouveau en étroite collaboration avec le nouveau président. Les États-Unis ont accusé en 2024 un déficit de 45,6 milliards de dollars dans les échanges de biens avec l'Inde, en hausse par rapport à 2023 selon le gouvernement américain. Les autorités iraniennes ont arrêté 2 ressortissants britanniques pour des motifs liés à la sécurité dans la province de Kerman. Dans le centre de l'Iran, ont rapporté les médias officiels. L'agence de presse officielle IRNA a indiqué que l'ambassadeur du Royaume-Uni à Téhéran, Hugo Schorer, avait rencontré les 2 suspects de nationalité britannique au bureau du procureur de la province sans donner plus de détails. Le groupe État islamique a revendiqué hier l'attentat suicide qui a fait 8 morts mardi selon un nouveau bilan officiel devant une banque dans le nord de l'Afghanistan où des fonctionnaires du gouvernement taliban venaient collecter leur salaire. Mardi, la police de Kunduz, capitale de la province du même nom, avait rapporté qu'un attentat suicide devant la banque de Kaboul peu après son ouverture avait tué et blessé des civils, notamment des fonctionnaires. ainsi que des gardes de la banque. Le groupe État islamique avait déjà recouru à ce modus operandi, en mars 2024 à Kandahar, dans le sud, le fief des talibans. Et puis la Maison-Blanche a accusé les juges bloquant certaines décisions de Donald Trump de faire preuve d'abus de pouvoir et de contrecarrer la volonté du peuple. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Nous passons maintenant à la page économie. C'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
Le Togo vient de lancer les travaux de construction de la voie de contournement de Sokodé au nord de Lomé. D'un budget de 24,5 milliards de francs CFA, le projet bénéficie de 16 milliards de francs CFA, soit 82% du Japon. Cette infrastructure comprendra une route bitumée de 16 km et des travaux annexes qui incluent la réhabilitation de la route nationale 14 et l'amélioration de la route nationale numéro 1. La compagnie Hydropower a lancé une invitation à sélection initiale pour les entreprises intéressées par la construction du barrage de Kikote, long de 1200 mètres et équipé de 6 turbines de 83,3 MW. D'une capacité de 500 MW, le projet inclut des travaux de génie civil, électromécanique et la construction de lignes et postes d'évacuation d'énergie. Pour terminer, Chevron prévoit de réduire ses effectifs de 15 à 20% dans le cadre d'une réorganisation stratégique visant à réduire les coûts et à renforcer sa compétitivité à long terme. Ces suppressions d'emplois devraient être finalisées d'ici fin 2026. Elles font partie de l'objectif de l'entreprise de réduire de 2 à 3 milliards de dollars ses coûts structurels d'ici l'an prochain.
À présent, les nouvelles sportives avec Eric Manirakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Yakuba.
Les barrages allés de la Ligue des champions en Europe pour commencer, Bruges domine l'Atalanta Bergame.
Le club Bruges a obtenu un succès quasi inespéré de 1 en barrage de la Ligue des champions face à l'Atalanta Bergame hier mercredi dans la Venise du Nord grâce à un pénalty vivement contesté converti dans les dernières secondes par Gustav Nilsson. Les deux équipes peuvent toujours rêver se hisser en huitième de finale où les attendront soit Lille, soit Aston Villa.
Le Bayern Munich s'impose à Glasgow contre le Celtic.
Le Bayern Munich s'est imposé d'un 1-1 hier soir à Glasgow sur la pelouse du Celtic et a pris une petite option pour la qualification en huitième de finale. Les buts munichois ont été inscrits par Michael Hollis, 45e minute, et Harry Kane, 49e, l'Anglais inscrivant son 7e but de la compétition cette saison. Le match retour est programmé à l'Allianz Arena de Munich, mardi à 21h.
Et puis Monaco, battu 1-0 à domicile par Benfica.
Benfica a battu Monaco 1-0 au stade de Louis II, prenant une option sur la qualification pour les huitièmes de finale. Après une première mi-temps plutôt calme, c'est Benfica qui a ouvert la marque juste après la reprise grâce à Vangelis Pavlidis, 48e minute. Juste après, les Monégasques se retrouvaient à 10 avec l'expulsion de Moutassim Al-Moustrati pour contestation.
L'AC Milan sous pression après sa défaite 1-0 contre le Feyenoord.
L'AS Milan défait logiquement 1-0 sur la pelouse de Feyenoord après une bourde de son gardien Mike Maignan. Devra hausser son niveau de jeu s'il veut se qualifier pour les huitièmes de finale. Le barrage retour est prévu mardi prochain à San Siro à Milan. Le vainqueur de la double confrontation ira défier en huitième à mars, soit l'Inter Milan, soit Arsenal.
En Angleterre, nous parlons de la Premier League. Everton accroche Liverpool dans un finish exceptionnel.
Everton a arraché contre son voisin Liverpool, leader du championnat, et match nul de manière spectaculaire, 2 buts partout, dans les ultimes secondes du dernier derby disputé à Goodison Park hier en Premier League. Le défenseur James Tarkowski a envoyé un missile en pleine lucarne au bout d'un interminable temps additionnel, 98e minute. pour faire chavirer ses supporters dans un stade en fusion.
Fin de saison possible pour Aves, l'attaquant d'Arsenal.
Le club d'Arsenal, actuel deuxième de Premier League, pourrait terminer la saison sans véritable avant-centre après la sérieuse blessure rapportée ce mercredi par plusieurs médias britanniques subie par l'attaquant allemand Kai Havertz. Selon The Athletic, la grave blessure survenue durant un stage d'entraînement à Dubaï n'a pas été confirmée par Arsenal de fin de Liverpool en championnat.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Yacouba Ouidraogo, toujours avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. Les évêques de l'église catholique et protestante ont rencontré les dirigeants de la rébellion à Goma dans le cadre du pacte social pour la paix qu'ils ont initié pour amener la paix en République démocratique du Congo. Ils annoncent vouloir rencontrer les chefs d'État de la région, dont Paul Kagame du Rwanda, dans le même cadre. Edith Sango a joint à Goma le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale SENCO, Monseigneur Donatien Cholet.
De toutes les façons, c'est tout à fait normal que en venant dans les pourparlers, chacun vient avec ses exigences. Le plus important, c'est la volonté de l'avant, et on verra ce qui est faisable. Vous savez, l'expérience du dialogue de Saint-Sylvestre, on avait pris 2 semaines uniquement pour convaincre ceux qui avaient des conditions qui ne permettaient pas encore le dialogue. Par rapport au stade actuel, nous sommes satisfaits.
Oui, nous avons appris que même si vous proposez un pacte national, vous pensez rencontrer aussi les dirigeants de pays environnants. Est-ce que vous confirmez?
Absolument, c'est absolument nécessaire parce que il y a des choses telles que nous avons écouté les uns les autres jusque-là. Il y a cette double nécessité de régler certaines choses en interne sur le plan de la sous-région. Aller seulement au niveau de la sous-région, ce n'est pas la solution. Rester au niveau national, ça ne sera pas la solution. Et vous allez voir très prochainement, d'ailleurs, le contact que nous sommes en train de prendre en ce sens.
Mais à l'interne, il s'avère qu'il y a des problèmes de contestation dans les partis du président de la RDC et les autres partis aussi. Est-ce que, comment vous réagissez? Est-ce que vous avez aussi rencontré l'ancien président et les autres partis?
Ben, nous sommes en train de continuer la tournée. Et quand on a lancé l'initiative proprement dite, quand bien même on avait des contacts préliminaires pour annoncer la dynamique, c'est maintenant que nous sommes en train de rencontrer tout le monde. En ce qui concerne l'IDPS, je trouve ça absurde, étant donné que l'autorité morale a donné une position claire, rendu public par le voix de la presse et la présidence même. S'ils avaient un avis contraire, ce serait à lui qu'ils devaient s'adresser. Et là, ça paraît un imbroglio. Donc, de toutes les façons, chacun assumera ses responsabilités devant l'histoire.
Même le porte-parole du gouvernement...
Nous ne pouvons pas, à ce stade, arrêter l'initiative à cause des exigences des uns des autres, parce que le pays, il faut le voir en grand.
Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale, SENCO.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Kisangani, sur 97.7 FM.
Toujours en rapport avec le conflit dans l'est de la RDC, les personnes fuyant les combats continuent de quitter Goma vers des zones plus sûres. À Bukavu, l'hôpital général fait face à un afflux de malades en raison du conflit. Davantage avec Dilidiko.
Des déplacés internes quittent Goma par les voies fluviales. Fuyant les combats, ils montent à bord de pirogues après avoir quitté le camp de Bulengo. Le groupe armé M23, soutenu par les troupes rwandaises, ont pris le contrôle de Goma, la capitale du Nord Kivu, le mois dernier. Les combats ont ensuite éclaté mardi 11 février dans l'est de la RDC, 3 jours après l'appel des dirigeants africains à un cessez-le-feu et un bref répit. Les populations, y compris les blessés, tentent désormais de rejoindre le Sud Kivu pour se mettre à l'abri des combats et recevoir des soins de santé. Dezonga Mapenzi est un patient venu du Nord Kivu.
J'ai été touché par balle au niveau du cou et elle est restée à l'intérieur. J'ai été transféré de Goma à Bukavu. Ils font ma lessive, je reçois de la nourriture tous les soirs et parfois du pain. Nous sommes bien pris en charge. Ils répondent à tous nos besoins, du savon, de la nourriture, donc on ne manque de rien ici.
L'hôpital de Bukavu se prépare à recevoir des patients en grand nombre. Yvette Kouji, médecin à l'hôpital provincial de Bukavu, dit être prête pour la prise en charge des nouveaux arrivants.
En cette période de guerre, la prise en charge est optimale comme d'habitude, mais quand même nous nous sommes préparés pour que s'il y a un afflux de malades, notre hôpital soit à mesure de les prendre en charge. Donc s'il y a des blessés venant par-ci, par-là, notre institution est à mesure de les prendre en charge.
Le directeur de l'hôpital provincial de Bukavu, Guy Moulingania, explique que le contexte de Bukavu est particulier car les défis sont nombreux. Insécurité avec le conflit qui se propage, pauvreté et manque de subventions publiques. Tout cela, dit-il, rend le quotidien compliqué.
Nous recevons beaucoup de malades. Vous avez vu qu'on est en train de faire l'appel pour un don de sang pour permettre de prendre en charge non seulement les malades qui viennent du Nord Kivu, mais aussi des malades du Sud Kivu. Il y a plein de malades qui sont partout. C'est pas seulement les blessés de guerre par armes, mais il y a aussi des malades au niveau localement qui ont besoin vraiment de notre appui.
Alors qu'à Goma, la situation humanitaire s'aggrave, à Bukavu, l'inquiétude est grandissante face à la progression du M23. La crise dans l'est de la RDC doit être abordée lors d'une réunion de l'Union africaine à Addis Abeba vendredi.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Au Kenya, face à la recrudescence de la violence envers les femmes telles que les féminicides, un groupe de femmes âgées a décidé de ne pas se laisser faire. Elles se sont inscrites pour prendre des cours d'autodéfense. Ginny Niwa fait le point.
Selon Africa Data Hub, au moins 75 féminicides ont eu lieu en 2023 au Kenya, contre 46 l'année précédente, la plupart dans les quartiers pauvres. La classe Kuku du Kinge, en Swahili, grand-mère se protège, redouble d'efforts pour aider les personnes âgées à se protéger. Ils capturaient des vieilles femmes ici à Korogocho. Ils les violaient, les tuaient et les jetaient dans la rivière. Disons que Dieu est grand parce que nous avons reçu de l'aide avec Jake, originaire d'Amérique, et sa femme. Lorsqu'il a entendu cette histoire, il nous a dit de nous réunir et pour nous apprendre à nous défendre. Nous avons donc rassemblé de nombreuses femmes et il nous a entraînés dans le bureau du chef. Il nous a formés pendant 6 mois.
Le cours a été lancé il y a près de 25 ans par un couple d'Américains travaillant avec des résidents locaux après que plusieurs femmes ont été violées et tuées à Korogocho, un quartier pauvre et dangereux.
Il m'a dit de m'allonger. Je n'ai pas refusé. Je me suis allongée. Il a alors compris que j'étais prête et il a commencé à se déshabiller. J'étais toujours allongée. Alors qu'il tenait de me violer, j'ai saisi ses parties intimes de toutes mes forces et je les ai tordues. Et il s'est mis à crier. Les personnes qui se trouvaient à proximité ont entendu les cris et ont demandé ce qui se passait, car elles m'avaient vu aller dans cette direction. Ils ont demandé pourquoi cet homme m'avait suivi. Ce n'était même pas moi qui criais. Quand les gens sont arrivés, ils l'ont attrapé et ont commencé à le battre. Et c'est ainsi que j'ai été sauvée.
L'association à but non lucratif Shining Hope for Communities a déclaré avoir aidé 307 survivantes de violences sexuelles à Korogocho rien qu'entre octobre et décembre. Selon les chercheurs, la violence fondée sur le genre tire racine des conceptions patriarcales, des inégalités socio-économiques et de l'insuffisance des protections juridiques. Par exemple, la loi kényane ne criminalise pas le viol conjugal.
Les attaques par les jeunes hommes dans ce village, les vieilles femmes étaient souvent attaquées. Mais depuis qu'ils ont créé leur groupe, ces cas ont diminué.
En septembre, la coureuse professionnelle Rebecca Cheptegei a été tuée par son petit ami. Elle s'était rendue au moins 3 fois à la police dans l'année pour signaler des menaces et des violences physiques de la part de son compagnon, a déclaré sa famille.
Jacques Aristide avec vous. Washington Forum revient cette semaine sur la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, une région en proie à une crise humanitaire sans précédent. La récente prise de Goma par le M23, appuyée par le Rwanda, a poussé les dirigeants régionaux à exiger un cessez-le-feu immédiat. Mais cette énième trêve sera-t-elle respectée ou connaîtra-t-elle le même sort que les précédentes, brisée avant même d'avoir pu produire des effets, alors que Kinshasa réclame des sanctions contre Kigali et que la communauté internationale paraît hésitante? Quelles sont les chances réelles d'une désescalade? Laissez vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h30.
Ici aux États-Unis, dans le Texas, une tendance innovante émerge. L'agrivoltaïque alliant énergie solaire et élevage ovin. Les fermes solaires en pleine expansion emploient des moutons pour gérer l'herbe, réduisant ainsi l'utilisation de tondeuses à gaz et contribuant à l'essor de l'industrie ovine. Ce modèle appelé pâturage solaire connaît un essor rapide, offrant des opportunités aux éleveurs tout en renforçant l'efficacité écologique des fermes solaires. Nanit Talani nous en dit davantage.
Dans une ferme du Texas, sous des centaines de rangées de panneaux solaires, un troupeau de moutons trapus fouille les pâturages, mâchant de l'herbe et contribuant à l'entretien des terres. L'agrivoltaïque, la combinaison des panneaux solaires et de l'agriculture, est en plein essor avec plus de 60 projets de pâturage solaire aux États-Unis, selon le Laboratoire national des énergies renouvelables. James Hawkins, gestionnaire d'actifs chez SB Energy, met en lumière l'impact positif de l'intégration des moutons dans les fermes solaires pour l'entretien.
L'intégration des moutons dans le champ solaire a de nombreuses retombées positives pour l'industrie ovine. Par exemple, il y a plus de moutons en liberté grâce à cela. Les prix de la laine n'étant plus ce qu'ils étaient, les éleveurs trouvent d'autres moyens de compléter leurs revenus. L'un d'entre eux est l'entretien de la végétation. À mesure que ce secteur se développe, la demande de moutons augmente. Cela se répercutera sur tous les aspects de l'économie ovine.
Dans le comté de Milam, près d'Austin, SB Energy a lancé l'un des plus grands projets solaires des États-Unis, faisant appel à environ 3000 moutons qui se déplacent avec aisance entre les panneaux solaires, rangeant l'herbe sous n'importe quelle condition météorologique. Ce procédé, plus écologique que l'utilisation de tondeuses à gaz, permet de réduire les émissions de carbone, tout en conservant la biodiversité des terres.
Il y a eu une certaine réticence à passer du fauchage à l'essence au bétail pour l'entretien de la végétation. Nous commençons à voir une adoption à grande échelle.
Le pâturage solaire représente une véritable aubaine pour plusieurs éleveurs de moutons qui affirment avoir vu leurs activités prospérer. James Hawkins soulève la question de l'importance environnementale des tondeuses à gaz et de l'importance de trouver des solutions plus écologiques, comme l'utilisation du bétail, pour préserver la durabilité des sites solaires.
Il est facile de mettre des tondeuses à gaz sur un site et de tondre l'herbe. Mais quel genre de protecteur de l'environnement serions-nous si nous installions des panneaux solaires dans le sol et provisions de l'électricité renouvelable tout en créant davantage d'émissions de carbone à partir des tondeuses à gaz sur le site?
James Hawkins insiste sur la nécessité de bonnes pratiques de gestion des terres et sur la solution que représente l'élevage pour résoudre le problème complexe de la gestion de la végétation dans les pâturages solaires.
Rejoignez-nous chaque vendredi à 19h30 TU dans l'Amérique et vous. L'Amérique et vous, explorez les liens sociopolitiques et culturels entre l'Amérique et l'Afrique. L'Amérique et vous, l'émission qui réunit les deux continents dans un échange vibrant d'idées et de perspectives. Participez à la conversation sur les moyens de renforcer les liens entre l'Afrique et l'Amérique. Rejoignez-nous dans l'Amérique et vous, votre dose hebdomadaire d'échanges culturels et des discussions informatives sur l'Afrique et les États-Unis. L'Amérique et vous, c'est chaque vendredi sur VOA Afrique.
C'est
C'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Yakuba Ouidraogo, firmé Max Kouyaouida à la réalisation. Et s'y va le Monde aujourd'hui. L'info continue sur voafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique.